Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de l'heure du crime avec toute notre équipe, Justine Vigneault, Laure Broulard, Alexandre Cagzan qui est à la technique de cette émission aujourd'hui. Et à la une, alors, un personnage tout à fait étrange. On en a dit vraiment deux mots tout à l'heure avec Vincent Parisot et Isabelle. Mais en fait, on ne sait pas. Ce type qu'on appelle le serpent, le cobra, qui a une vie qui est digne d'un film. Alors, certains diront que c'est un film de série noire parce qu'on l'accuse de dizaines et de dizaines de meurtres de hippies dans les années 70 sur les routes de Katmandou, de Thaïlande, d'Inde et d'autres endroits du monde. Cet homme, en tout cas, qu'on a souvent accusé de meurtre, a toujours protesté de son innocence. Il reconnaît être un voleur, mais pas un meurtrier. Sa situation, il a 70 ans cette année. Il a eu 70 ans en avril. Il a été condamné en 2005 au Népal pour le meurtre d'une touriste. Il a été condamné à vie, donc il se trouve toujours en prison. Il devait sortir parce que paraît-il, mais ça on va en parler avec mes invités dans un instant, certainement en 2015, parce qu'en général après 70 ans il est d'usage de libérer les prisonniers au Népal, d'après ce qu'on m'a dit. Et puis là, le 18 septembre dernier, une dépêche de l'agence France Presse datée de Katmandou nous dit que ce Français, donc Charles Sobhraj, condamné à vie, a été condamné à nouveau à perpétuité pour le meurtre de l'ami canadien de la victime pour laquelle il avait été une première fois condamné donc à perpétuité. Alors, on l'appelle aussi le bikini killer, on va vous expliquer pourquoi dans un instant, et nous allons parler de ce personnage, de son parcours, de ce qu'il dit, et de ce que disent ceux qui affirment qu'ils ont été des victimes. On va en parler avec Maître Isabelle Coutempère. Bonjour, Maître.
Bonjour.
Ah, vous êtes l'avocate française de Sobhraj. En face de vous, Jean-Charles Degnaud. Bonjour, bonjour. Jean-Charles, vous êtes journaliste d'investigation et vous avez rencontré et vous continuez à être régulièrement en contact avec Charles Sobhraj. À la fois, je crois, par téléphone mais et par courrier. Dernier contact remonte à quand ?
3 semaines.
Oui.
Et par email aussi. Ouais. Et il m'envoie il envoie à Isabelle aussi, ouais, des textes. Il nous raconte son histoire.
Pour que vous écriviez son autobiographie.
Sa biographie.
Son histoire, en tout cas. Oui,
bien connaître son histoire.
Ouais. Alors, bon, et puis on aura tout à l'heure au téléphone un témoignage, celui de Dominique Renello. C'est un Français qui vit aujourd'hui au Sable d'Olonne, qui a rencontré Charles Sobhraj en 1974 lors d'une escale en Thaïlande. Voilà, il faisait la route à cette époque-là, il nous expliquera, Dominique Renello. Et puis, il l'a rencontré au nord de Bangkok. Ils ont dîné ensemble, il s'est senti mal, il est parti aux toilettes à un moment, il est revenu, il a bu son verre et il s'est senti très mal et il s'est réveillé chez Charles Sobhraj, qui l'accuse, et on l'entendra donc tout à l'heure dans cette émission, d'avoir détroussé et tué un certain nombre de hippies dans ces années-là. Alors, d'abord, je vais donner la parole à l'avocate, Maître Isabelle Coutempère. En dehors du fait que vous êtes son avocate, comment on peut faire la part des choses entre ces presque 30 meurtres que j'ai évoqués tout à l'heure dans ma présentation, les 11 dont il a été vraiment accusé, et les deux pour lesquels il a été condamné?
Alors, sur les légendes, je crois que c'est toujours très très loin de la vérité, la vraie vérité. Et la vérité judiciaire, c'est encore un autre problème, parce que c'est pas toujours la même chose. Charles Sobhraj, pour des raisons qui m'échappent pour le coup, moi je le considère comme un grand aventurier, mais au sens romantique du terme, mais s'est trouvé imputé de toutes sortes de... d'actes criminels.
Il a eu du sien aussi.
Non, disons que c'est vrai qu'il aurait tendance, comme tous les gens d'ailleurs qui supportent des années de prison, à inventer des justifications à un parcours tout à fait extraordinaire. Mais je répète, en dehors d'être son avocat, il n'y a strictement aucune condamnation pour meurtre contre Charles Sobhraj. Et par contre, au Népal, il a été condamné pour des meurtres qu'il n'a pas commis, parce que je connais le dossier. Et franchement, ce sont des inventions complètes. Et on pourra parler ensuite des raisons pour lesquelles on lui a inventé au Népal ces motifs de condamnation à 20 ans. C'est pas à perpétuité, mais c'est à 20 ans.
D'accord. Alors, me tourne vers vous, Jean-Charles Degnaud, maintenant. Il faut parler de ce personnage. Qui est-il ? C'est un métis, sa maman était
vietnamien-indien, mm-hmm. Qui est né à Saïgon, qui est né au Vietnam.
En 1944.
Indochine. C'était l'Indochine à l'époque. Ouais. Donc, son père a disparu, il a recherché son père pendant des années, il a fait sa première fugue à 10 ans, il est monté dans un train pour essayer de rejoindre son père, ses parents ont divorcé, sa mère s'est remariée avec un officier français, et c'est ainsi que...
Qu'il est arrivé en France,
il
en
a
fait,
la nationalité
il a
française.
Eu la nationalité française,
voilà.
D'accord. Et donc il a fait toute sa petite enfance. En
voilà,
fait,
c'est un homme qui est très cultivé, puisque... il a passé tellement d'années en prison, il lit beaucoup, il parle 7 langues, 8 langues, enfin c'est...
Ouais, mais si je reviens à son départ dans la vie, son parcours, à 19 ans, il se fait remarquer quand même des autorités, on va dire, parce qu'il vole des voitures, c'est
ça ? Il vole
des
voitures, mmh. Il fait de la prison un peu en France, mais rien d'extraordinaire en France. Ouais. Et arrive mai 68...
Ouais. Là, il a rencontré une jeune femme qui va
une
épouser
jeune femme
Chantal.
Qui va épouser Chantal, et ils vont partir sur la route des Indes. Vous savez, c'était la grande période des hippies. On partait en deux chevaux, on allait là-bas. Beaucoup de junkies, Européens,
des drogués
qui partaient sur la route des Indes parce que c'était plus facile de se procurer de la drogue. Mmh. Et c'est ainsi qu'il a commencé à détrousser les touristes.
D'accord. Alors voilà. On va expliquer tout à l'heure de quelle façon il a mis au point un rituel qu'il a souvent utilisé, un scénario qu'il a souvent utilisé en endormant ou en empoisonnant ses futures victimes. Une pause tout de suite et on continue à cheminer sur la trace de celui donc qu'on appelle le serpent.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Avec pour l'instant maître Isabelle Coutempère, qui est l'avocate française de Charles Sobhraj, dit le serpent, Jean-Charles Degnaud, donc qui est en contact régulier avec cet homme qui est actuellement, on l'a dit, incarcéré au Népal. On parlait de son mode opératoire au moment où il détroussait les hippies sur la route des Indes. En fait, il se liait d'amitié avec ses futures victimes.
Oui, il avait beaucoup de charme. Ouais. Il parlait plusieurs langues. Ouais. Et
il a dit un jour à un journaliste américain, tant que je peux parler aux gens, je peux les manipuler.
Voilà.
Il assume aussi. Hein,
il assume. Il les manipulait. Mmh. Il voulait orienter les touristes, puisqu'il connaissait très très bien les lieux touristiques.
Je connais bien.
Venez avec moi. Venez, voilà.
Ouais. Puis après,
et ça se terminait par un dîner. Ils allaient au restaurant. Et là, il les endormait. Il leur mettait un somnifère dans le café ou dans leur boisson.
Il les ramenait à leur chambre gentiment.
Il les ramenait à leur chambre et il les détroussait. Alors les détrousser, c'est curieux parce que c'était pas grand-chose en fait. Mmh. Sauf, à l'époque, il y avait des traveler checks.
Oui.
Et très souvent, les étrangers avaient des traveler checks, ils leur prenaient les traveler checks, leur appareil photo, des choses comme ça, mais ça n'allait jamais. Voilà. C'était quand même des détroussages à la petite semaine.
Et leur papier d'identité avec lequel ils passaient les frontières.
Ils passaient les frontières.
Compliquer les choses
pour
l'attraper.
Oui.
Et alors, ils faisaient ça aussi à des touristes.
Ils faisaient ça à des touristes, des touristes étrangers. Enfin, des touristes étrangers.
Ils rencontraient au bar de l'hôtel. Toujours bien habillés.
Voilà. Alors, un de ces arguments, c'était de dire, vous savez, ici, l'eau est très très mauvaise, faut pas boire de l'eau du robinet et tout.
La dysenterie,
faut mettre des capsules dedans, mettez cette capsule dans votre verre d'eau et comme ça, ce sera assaini.
Oui. Alors, bon, à cette période-là, en fait, il n'a tué personne, il a détroussé beaucoup de monde, c'est un voleur, il a aussi organisé des vols de voitures à son arrivée dans la région, et puis, il va être mis en prison à l'occasion d'un événement qui est aussi une scène de film, on parlait de scène de film tout à l'heure, il est dans un grand hôtel à New Delhi, il s'aperçoit que la danseuse, chanteuse, danseuse de l'hôtel, qui chante au bar le soir, ça chambre est juste au-dessus de la bijouterie. Et donc, il la séduit, il lui dit, en fait, il se présente comme un impresario, il dit, mais moi, je vais vous faire, je vais vous rendre célèbre en Amérique, et il se fait recevoir chez elle pour lui faire signer un contrat, évidemment.
Dans la chambre,
mirobolant. Il vient pas tout seul, il vient avec un monsieur qui dit, présente comme son secrétaire, et puis en fait, là, il saute sur la fille, tous les deux, il la ligote, et ils sortent de leurs immenses sacs de sport, des outils,
pour creuser, pour casser
le plafond, pour s'introduire dans la bijouterie. Sauf que là, ils s'aperçoivent, c'est une dalle de béton, qui est absolument impossible, évidemment, de percer. Bon, et bref, ils s'en vont, ils essayent de partir, en avion, ils se font attraper à l'aéroport, etc. Et il se fait mettre en prison. Mais il va s'évader de cette prison.
Il s'évade
d'une manière incroyable.
En offrant des gâteaux aux gardiens, les gâteaux sont remplis de somnifères et ils s'endorment.
Mais voilà. Ça prouve et aussi. Et il pique l'uniforme d'un policier.
C'est des bras cassés, quoi. Ouais. L'histoire de la bijouterie, sont des bras cassés, quoi.
Alors. L'histoire de la bijouterie, c'est des bras cassés. Un jour, il va quitter l'Inde, il va aller s'installer du côté donc de la Thaïlande.
En Thaïlande.
Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Parce que il est accusé de meurtres, de nombreux meurtres, dont celui horrible, d'où son surnom de bikini killer, d'une jeune femme trouvée en bikini au bord d'une plage
à Pattaya. Alors, je pense que en Thaïlande, pour moi, c'est le seul endroit où il y a des crimes. C'est en Thaïlande. En Inde, je pense qu'il a tué personne. Je pense qu'en Inde, les gens qui sont morts à la suite de l'absorption de somnifères, c'est parce que c'était des junkies qui, très souvent, étaient au bord de l'overdose. Et le mélange des somnifères et de la drogue, c'est... Voilà.
C'est quand même un homicide.
C'est... Voilà. En Thaïlande, il y a trois cas... Bon, j'essaie de lui faire raconter, c'est très difficile pour qu'il le reconnaisse, mais il y a pour moi 3 assassinats en Thaïlande. Alors,
moi, j'aimerais bien quand même...
Oui, allez-y, je vous en prie, mais c'est pour ça qu'on vous a demandé aussi de venir pour...
Non, mais c'est-à-dire que je trouve que c'est... on ne peut pas parler d'hypothèses.
Non mais là, pardonnez-moi, maître, il
l'hypothèse.
Était condamné
non, mais
à mort en Thaïlande.
C'est quand même des pays
sur des enquêtes.
C'est quand même. Non, parce que
il a été condamné à mort en Thaïlande.
D'expert, parce que j'ai quand même beaucoup de dossiers à l'étranger. Je sais qu'en Thaïlande, la police est extrêmement corrompue et qu'on peut fabriquer un dossier dans un sens ou dans l'autre.
Juste, on va dire. Mais simplement, pour ceux que je veux dire. Écoutent, attendez, je vous laisse parler tout de suite après, mais pour que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent, cette jeune femme en bikini, c'est une jeune américaine. Elle vient, on retrouve son cadavre sur une plage, c'est des pêcheurs. Elle est enterrée parce qu'on pense que c'est une mort soit naturelle, soit une overdose. Quand on va commencer à se poser des questions, on va exhumer le cadavre et on va s'apercevoir qu'elle a été empoisonnée. Or, la dernière personne qu'elle a longtemps fréquentée, c'est Sobhraj.
Enfin, écoutez, de ce que je connais de Charles Sobhraj, et même de ce que racontait Jean-Charles Deneau tout à l'heure, ça ne correspond absolument pas à ce qu'il est, à savoir que ça n'est pas un tueur, c'est un aventurier. Bon, ça, c'est mon point de vue, mais c'est quelqu'un qui a besoin de papier, qui a besoin, effectivement, de traveler. Ces questions de touristes, c'est pas des gens qui ont beaucoup de moyens, et il a jamais tué pour ça. Lui, c'est de piquer ce dont il a besoin pour passer quelques jours ou quelques semaines.
En Thaïlande, quand même tué quelqu'un en se faisant passer pour un vendeur de pierres précieuses.
Sauf qu'en Thaïlande, c'est un peu différent. En Thaïlande, pour moi, en Thaïlande, ce sont des gens qui sont venus en Thaïlande pour le rencontrer parce qu'ils avaient un proche qui était mort d'overdose et ils se sont dit, moi je veux savoir comment il est mort.
Et comme il était la dernière personne.
Comme c'était la dernière personne, c'était un Israélien, un jeune Israélien, ils étaient 3. Ils sont venus et en entrant dans l'appartement de Sobhraj, ils ont compris ce qui s'était passé. Et là, Sobhraj a paniqué. Voilà. Et je pense que sur ces 3 cas...
Vous n'êtes pas du même avis de maître Isabelle
Coutant. Non, parce que je pense que...
On peut absolument pas...
Enfin, évidemment, moi, je suis avocat, mais enfin, je suis assez outré qu'on puisse accuser quelqu'un de meurtre qui...
Là où vous pouvez être outré, c'est qu'il a été condamné à mort par contre Dumas et qu'il s'est réincarcéré en Inde pour échapper à la justice thaïlandaise.
Non, c'est même pas sûr. Non, non, attention. Il n'a pas été condamné à mort en Thaïlande. C'est une erreur. La Thaïlande a demandé son son extradition alors qu'il était en Inde. Oui. Pour le juger.
Pour lui faire un procès. Oui, voilà, non, il était accusé de meurtre.
Non, non, mais.
Vous avez raison, vous avez raison. Alors,
sauf qu'en Thaïlande, il y a la peine de mort et donc.
Voilà, ça n'a rien à voir, il n'a jamais été condamné à mort.
D'accord. Alors, on va continuer non, comme ça, mettre les poisons. Mais vous avez bien raison. Non, non, mais c'est moi qui ai fait une boulette, hein, j'assume. On fait une pause et puis on va prendre au téléphone quelqu'un qui n'est pas du tout de votre avis, qui s'appelle Dominique Renello, donc un Français qui vit aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, au Sable-d'Olonne et qui a rencontré Sobhraj en 1974 et on pourrait dire qu'il a eu du mal à s'en remettre.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Dans un instant, on va retrouver Maître Isabelle Coutant-Père, l'avocate française de Charles Sobhraj, ainsi que Jean-Charles Degnaud, qui a rencontré Charles Sobhraj à plusieurs reprises et qui est, comme tout le monde sait, journaliste d'investigation et qui tente depuis des années de retracer vraiment la vie de Sobhraj et de faire la part entre la légende et la réalité. Mais d'abord, maintenant, on va entendre le témoignage d'un Français qui a rencontré Sobhraj dans ces années-là. En fait, c'était très précisément en 1975, au nord de Bangkok, à Chiang Mai. Bonjour, Dominique Renello.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez tout simplement dire à ceux qui nous écoutent, enfin nous dire dans quelles circonstances vous avez rencontré cet homme et ce qui s'est passé?
Je venais de passer un an et demi en Australie et j'avais décidé de rentrer en France, non pas sur un vol direct, mais de voyager à travers l'Asie pendant 6 mois. J'ai donné 6 mois. Donc j'avais déjà fait Singapour, Indonésie, Malaisie, un premier passage Thaïlande et puis le Laos. Le Laos ferme ses portes le 23 septembre. Ils me mettent sur le Mékong et je me retrouve dans le nord Thaïlande. Mm-hmm. Et je suis un après-midi donc à la terrasse d'un café en train d'étudier une carte pour aller voir une cascade qui est tout près de Chiang Mai. Oui. Quand quelqu'un à côté de moi me dit « Voulez-vous une cigarette ?» Donc quelqu'un qui me parle en français, c'est vrai qu'on est toujours... à cette époque-là, quand on voyage, on n'a pas l'occasion de parler français et ça m'interpelle. Je discute avec ce couple qui se présente comme étant Alain Gauthier et Monique. Ouais. À l'époque, Sobhraj se faisait appeler Alain Gauthier et Marie-Rosée Leclerc se faisait appeler Monique. Mm-hmm. Très bien habillé, costume clair, chemise blanche, etc. Et donc, il me dit il est commerçant en pierres précieuses et bijoux à Bangkok et actuellement en vacances dans le nord Thaïlande. Mm-hmm. Il me propose donc d'aller à cette cascade ensemble, puisqu'il a une voiture. Donc, je trouve ça tout à fait intéressant. Nous allons à la cascade ensemble.
Vous étiez avec sac à dos, enfin, voilà. L'uniforme habituel du routard.
Je ne suis pas, contrairement à ce que j'entends dans l'émission depuis le début, là, je n'étais ni hippie, ni junkie. Hein.
D'accord.
J'étais simplement un voyageur.
C'est voilà. Clair.
OK. On va à la cascade ensemble. Sur le chemin du retour, on me dépose à l'hôtel. Il me dit, écoutez, je suis très intéressé par l'Australie. J'aimerais beaucoup qu'on en discute. Et il m'invite le soir à manger dans son restaurant où il se trouve. Mm-hmm. C'est le meilleur hôtel-restaurant de Chiang Mai. J'ai vraiment aucune raison de refuser. Oui. Donc, je me retrouve avec eux le soir au restaurant. Nous dînons, c'est très sympathique. Il me ramène à l'hôtel. Et je passe ma nuit entre mon lit et les WC. Mm-hmm. Et ah bon? Je me réveille 2 jours plus tard. Donc là, c'était le 27 septembre. Je me réveille 2 jours plus tard dans leur appartement à Bangkok, où là, ils m'expliquent qu'ils sont passés le matin pour me dire au revoir. Et comme j'étais très malade, ils m'ont emmené pour me soigner dans leur appartement.
Et vous n'avez aucun souvenir de ce transfert, si j'ose dire?
Ah non, absolument pas. Voilà, pendant 2 jours, j'étais complètement dans le coma. C'est sûr. Donc, il me dit, c'est une très forte dysenterie, mais je connais très bien l'Asie, je vais te soigner, t'inquiète pas, tu as tout ton temps, tu peux rester chez nous le temps que tu veux, tu t'en fais une santé. Comme mon pays suivant devait être l'Inde, il me dit, avant d'aller en Inde, il faut absolument que tu retrouves la santé et on va te soigner. Ouais. Et on a passé 3 semaines, vraiment, les 3 premières semaines étaient superbes. Hein, on allait à Pattaya, on allait à la frontière cambodgienne acheter des pierres précieuses, etc. Donc, c'était superbe.
Et vous alliez bien, alors vous alliez mieux.
Là, je me refaisais une santé, ça allait bien. Oui. J'ai manifesté pendant ces 3 semaines, le moment donné, j'ai dit, bon, ben ça y est, maintenant je vais repartir. J'oublie de dire quand même qu'il m'avait pris mon passeport et mes travailleurs chèques, puisque...
Pourquoi ?
Il me disait que quand j'avais mes crises, j'étais un peu dangereux, je voulais partir. Et il me dit, dans l'état où tu seras dehors, tu vas te faire aussitôt arrêter et tu vas te faire dévaliser. Donc, je les ai mis en sûreté dans mon coffre.
Bon,
j'ai trouvé ça, pourquoi pas. Et comme il payait tout, en plus, je n'avais rien à débourser, donc c'était effectivement assez pratique.
Vous aviez beaucoup d'argent avec vous ?
Pardon ?
Vous aviez beaucoup d'argent, des travailleurs ?
J'avais plus de $1100 à l'époque. Mm-hmm. Alger arrive à l'appartement vers mi-octobre, hein, donc là, tout commence à sérieusement changer. Il y a la soirée avec Teresa Knowlton. Donc Teresa Knowlton.
Alors on connaît pas trop les personnages, simplement ce que je voulais c'était
que vous pensez comme étant la jeune femme en bikini, l'américaine là.
Ah d'accord, voilà.
Hein, on passe une soirée ensemble et à la fin d'un moment donné Sobhraj et Adjé disent on s'en va continuer la fête. Ils me disent toi tu restes à la maison, tu es fatigué, il faut que tu te refasses une santé, tu restes là. Bon, et le lendemain ils me disent Teresa, on a fait la soirée, on est à la Pattaya et on l'a laissée là-bas parce qu'elle voulait rester là-bas. Bien. Donc tout à l'heure, M. Deniaud parlait de trois victimes, moi j'en ai connu au moins cinq, hein. Teresa Knowlton, Vitaly Akim, le Turc, qui a passé toute une journée à la maison, qui était en affaire avec Sobhraj, c'est ce qu'il m'a dit à l'époque, puisque moi je l'ai rencontré et je pouvais discuter avec eux, et il devait rencontrer d'ailleurs chez Sobhraj Stéphanie Paris, la Française qui est aussi disparue. Oui. Et j'ai rencontré aussi les deux Hollandais, Henricus et Cornelia, le couple d'Hollandais qui eux sont arrivés début de mi-décembre, appartement, qui sont restés deux jours. Avant
de disparaître. Et donc on les a retrouvés morts.
Brûlés. En partie brûlés. En bord de route, notamment par un tuyau à gaz qu'il a volontairement, je pense d'ailleurs, je pense que s'il donne ses mémoires, on le retrouvera, qu'il avait laissé traîner sur le frigo et que quand je lui ai posé la question à quoi servait ce tuyau à gaz qui sentait l'essence, il m'a dit non, c'est rien, tu peux le jeter.
Alors, je vais vous interrompre deux secondes, Dominique, il faut qu'on fasse juste une pause, très brève. On se retrouve tout de suite après pour la suite de votre témoignage.
L'heure du crime sur RTL.
Alors, avant de donner la parole à Maître Isabelle Coutant-Père, qui a l'impression qu'on fait un procès en direct à son client, il faut simplement, Maître, qu'on sache de qui on parle quand même. Bon, et Jean-Charles Deniaud, je vous redonne aussi la parole dans un instant, mais on reprend Dominique Ronello. Donc, en fait, Dominique Ronello, vous vivez finalement 3 mois, quoi, chez Sobhraj, vous dites, et vous l'avez raconté il y a un instant, que vous avez, au cours de ces jours de 3 mois, croisé, et vous ne croyez pas les avoir croisés, vous les avez croisés parce que vous avez trouvé leur papier d'identité chez votre hôte, de gens qui ont par la suite soit disparu, soit été assassinés. Comment êtes-vous sorti de cette affaire vous-même? Parce que vous-même, vous êtes vivant pour le raconter.
Oui, j'ai cette chance-là. Il avait donc pris mon passeport. Il m'a rendu mon passeport un jour. Mais à la place de ma photo, c'était la sienne. Donc, mon passeport était inutilisable. Il m'a fait faire des photos un peu plus grandes, qu'il a recollé dessus, mis un tampon, etc. Sauf que mon visa était périmé, donc il a fallu que je me bricole un passeport avec les pages d'ailleurs de Stéphanie Paris pour pouvoir partir. Quand ils sont partis, eux, pour Katmandou, donc le 18 décembre, j'ai les voisins français qui habitaient en dessous Sobhraj, nous ont prêté l'argent pour payer, prendre des billets d'avion et pouvoir quitter Bangkok et rentrer en France.
Comment vous expliquez qu'il ne vous a pas tué, vous, alors?
Ça, je ne sais pas, il faudrait lui demander. Ceux qui sont en communication avec lui pourront lui demander pourquoi. Oui, oui. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi on était deux appartements, il nous a laissé les clés du coffre pour qu'on puisse ouvrir le coffre et découvrir tous les passeports qu'il y avait à l'intérieur, tous les travaux en chèque et tout ça. Que dans la chambre qui était libre, il y avait tous les papiers, tous les documents, tous les affaires personnelles des deux Hollandais et du Turc qui avaient été tués, qui étaient là. Donc, j'imaginais pas que ces gens-là étaient partis sans tout abandonner dans la chambre où ils habitaient. Il y a quand même quelques preuves, malgré ce qui se dit, là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de preuves que ces 5 personnes que j'ai moi rencontrées ont été tuées par Sobhraj.
Ouais. Écoutez, je vous remercie. Merci infiniment de votre témoignage. Là, on peut pas aller plus loin cet après-midi, mais c'était important de parler de cette période thaïlandaise, puisque Jean-Charles Deniaud nous disait tout à l'heure, autant je pense qu'il est accusé à tort au Népal, autant vraisemblablement en Thaïlande il y a eu des affaires criminelles graves.
Hein, il y en a 3 dans le dossier.
Voilà. Merci beaucoup, Dominique.
Ok, au revoir.
Au revoir. Alors, Maître Coutant-Père, donc, sur ce passage-là de la biographie de votre client, finalement, toutes les actions de justice se sont éteintes maintenant. Puisque
j'imagine que oui, mais je veux dire, ce n'est pas parce que cette personne a témoigné. Vous savez, les témoignages, bon, enfin, je ne vais pas mettre en cause, mais franchement, on ne peut pas savoir. Même si cette personne a une voix sincère, on ne peut pas savoir. Ce que je sais, c'est qu'il y a un dénommé Knippenberg qui travaille pour je ne sais quel service, qui pourchasse Charles Sobhraj depuis des années, qui paye qui paye, la police qui paye les magistrats au Népal pour le faire condamner sur des dossiers qui n'ont ni queue ni tête, c'est-à-dire c'est pas des dossiers judiciaires normaux. Ouais. Donc tout est possible. Parce que Charles Sobhraj, il a tellement traîné ses guêtres de tous les côtés. Je dirais par exemple, quand il était en Inde, il a commencé à rentrer en contact avec des gens. Il y avait des gens accusés de terrorisme qui étaient accusés d'avoir détourné un avion en 99. Ouais. Et qui étaient en contact, des gens d'Afghanistan qui était en contact avec les talibans. Bon, bah donc il a commencé à dealer des ventes d'armes. Donc il y a toute une autre.
Il a vendu des armes aux talibans, entre autres.
Voilà, ouais. Tout en balançant à la CIA selon ce qu'il dit. Hein, bah, je sais rien. Bon, en tout cas, je suis un petit peu étonnée d'entendre ce témoignage, entre guillemets, puisque je remets tout en cause, hein, dans le sens, c'est pas par principe, mais j'ai vu concrètement. Que la police et les magistrats au Népal sont payés pour maintenir Sobhraj depuis plus de 10 ans derrière les barreaux.
Vous en avez au Népal. Vous n'avez pas la preuve. C'est ce que.
Ah si, mais ils ont même inventé. Ils ont même inventé des faux documents Interpol. Ils ont fabriqué des faux documents Interpol de soi-disant recherche contre Sobhraj pour les produire dans le dossier, c'est-à-dire c'est complètement extraordinaire. Donc ce que je veux juste dire, et je voudrais le dire maintenant,
dites-le.
Et là-dessus avec Jean-Charles Denis, on ne sera pas d'accord. Un jour, un journaliste, enfin il y a quelques années, un journaliste qui dont je ne dirai pas le nom, mais qui a des contacts avec des services, m'a dit que Sobhraj, ce sont les services britanniques et les services français qui l'ont laissé partir. Ils étaient bien contents qu'il parte au Népal, parce que s'il avait des choses à se reprocher au Népal alors qu'il était libre, c'était complètement extraordinaire de partir au Népal avec un visa normal sur son passeport Charles Sobhraj. Et que l'idée était que dans ce pays, une fois qu'on est au trou, il suffit de payer, les gens ne sortent pas. Donc
vous pensez que
je crois assez à cette thèse, parce qu'au moment, au moment d'être libéré, automatiquement, parce qu'à 70 ans, c'est l'équivalent de 95 ans ici, c'est le pays le plus pauvre du monde, comme par hasard, on lui fait un nouveau procès, il n'y a pas de dossier, les avocats qu'il a désignés sont quasiment interdits de parler, et le tribunal commet un avocat d'office, et dans la journée, on lui recolle 20 ans, ce que l'AFP appelle perpétuité.
Alors, on fait la dernière pause de l'émission, et ensuite on se retrouve. Il faudra peut-être dire à ceux qui nous écoutent de quoi on l'accuse exactement au Népal, et dans quelles conditions il est allé dans ce pays, parce que c'était après plus d'une vingtaine d'années de prison déjà, et puis un retour en France, et là, ensuite, il est reparti en vacances au Népal, et ces vacances lui ont été, si j'ose dire, fatales.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors, maître Isabelle Coutemper nous disait il y a un instant que pour elle, les accusations portées contre Sobhraj au Népal ont été fabriquées de toutes pièces, qu'on l'a envoyé là-bas, peut-être avec la signature quelque part de certains ou de plusieurs services secrets qui auraient voulu se débarrasser du personnage. Cela dit, s'il veut parler, il peut parler, hein, puisque vous l'avez au téléphone régulièrement, il écrit. Il n'a rien dit pour l'instant sur cet aspect-là des choses.
Sur le Népal, bien sûr.
Sur les services secrets.
Ah, jamais, non.
Il ne les accuse pas.
Non.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Jean-Charles Denion, en deux mots, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a fait 20 ans de prison, finalement, en Inde, on est d'accord.
Il a été libéré, et en 97, et il est revenu en France, et il est reparti en 2003. Oui. Au Népal, ils avaient simplement oublié qu'il y avait deux cadavres dans le placard.
En France, il n'a pas été inquiété, la demande d'un certain nombre de Français, tout simplement parce que la France a jugé qu'il avait déjà été jugé.
Voilà, et puis il y avait prescription, et voilà. Il repart au Népal pour différentes raisons qui sont un peu vagues. On dit qu'il allait là-bas pour faire du commerce de textiles. On a dit aussi qu'il allait pour essayer de faire évader en Inde un de ses co-détenus, qu'il allait monter un coup pour le faire évader. Mmh. Moi, je ne crois pas du tout à la thèse.
Et qu'est-ce qui se passe? Comment il est arrêté? Pourquoi il est arrêté?
Il est arrêté parce que, soi-disant, en 75, au Népal, il aurait empoisonné, exécuté...
Une touriste américaine son compagnon.
Et son compagnon. Mmh. En fait... Moi, je pense que les crimes du Népal, avec Isabelle Coutemper, on a enquêté, il n'y a rien sur lui au Népal. D'accord. Mais qu'au Népal, il paie tout le reste pour lequel il n'a pas pu être condamné. D'accord. Notamment, il est victime de la vengeance ou de l'acharnement du consul des Pays-Bas en Thaïlande, Klippenberg, qui le poursuit depuis. Il est à la retraite, il a de l'argent.
À cause d'un double meurtre de deux Néerlandais
tués à Bangkok. Et il le poursuit de sa vengeance, et il paie. Il paie la police, il paie les juges, parce que la corruption au Népal, c'est monnaie courante. Et c'est ainsi que Sobhraj reste en prison. Et puis,
il aurait été, au cours de ce fameux voyage de 2003, reconnu par quelqu'un dans la rue.
Un journaliste, soi-disant.
Oui. Qui dit, mais bon sang, c'est bien sûr cet homme-là, je l'ai vu avec cette victime, cette touriste américaine, à l'époque. Et on va chercher donc des preuves. Alors, vous vous dites, Maître Coutant-Père, que les preuves qui ont été produites, notamment le registre d'un hôtel... où ce serait inscrit sous un faux nom.
Il y a eu une expertise, c'était un faux document par un expert judiciaire français, c'est un faux.
Oui, oui.
D'accord, donc ça c'est quelque chose de clair.
Et quant à l'autre histoire récente, là où on lui a recollé à nouveau 20 ans, en septembre, c'est pour le meurtre de Laurent Carrière,
qui était le compagnon de l'Américaine.
Oui, mais il n'y avait aucun dossier.
Nous sommes allés tous les deux. À Bhaktapur, à la cour de Bhaktapur, qui est dans les dossiers sont dans une pièce, les uns sur les autres. Il y a rien dans le dossier. À un moment, on ne savait pas si la victime était un homme ou une femme qui avait été retrouvée au bord d'une rivière. Oui. C'était un junkie. On ne savait pas si c'était un homme ou une femme.
Oui.
Donc moi, je pense qu'au Népal, il y a rien. Et d'ailleurs, la contre-expertise que nous avons fait faire à un graphologue en France est exactement identique à celle qui avait été faite par la police judiciaire.
Et lui, il est persuadé qu'il va finir par être libéré, alors
c'est quelqu'un de très courageux, il faut reconnaître, parce que ça fait 11 ans maintenant qu'il est. Il a une vie épouvantable dans la prison centrale de Katmandou, c'est monstrueux.
Hein. Il a épousé la fille de votre consoeur népalaise.
Oui, alors
son avocate népalaise.
Il a dit qu'il cherchait une. Parce qu'un jour, à une audience, j'ai pas compris ce qui se passait, le représentant du consulat de France m'a rien traduit. J'étais très en colère. À la suite de ça, il a cherché une interprète pour moi. Et en fait, il s'est trouvé qu'il a eu une histoire avec cette interprète qui est la fille
de son avocate,
d'un confrère népalais.
D'accord, ok. Là, comment vous voyez la suite des choses là, alors,
J'ai fait condamner le Népal en 2010 pour toutes les violations possibles du pacte international des droits civils et politiques, c'est-à-dire fabrication de preuves, violation du contradictoire, etc.
Qui a condamné le Népal?
Le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Donc j'ai une condamnation contre le Népal, que le procès est complètement irrégulier, le premier procès. Maintenant, en fait, il faudrait ressaisir cet organisme. Alors, je dois avouer que j'étais assez sidérée, parce que le Népal, qui a ratifié ce pacte, et qui dépend donc des décisions prises par ce comité, sont contre-fous.
D'accord.
On ne va pas envoyer les forces des Nations Unies
Pour libérer Charles Sobhraj de sa prison n'est pas
là. C'est ça le problème. Donc, je peux à nouveau saisir ce comité. J'avoue que j'ai pas une énergie formidable, sachant que c'est beaucoup de travail pour. En fin de compte, bon, alors après, il faut faire respecter les droits.
Oui, bien sûr. Alors, vous êtes, ce sera le dernier mot, il nous reste moins d'une minute, mais vous êtes son avocate parce qu'il est français, parce qu'il vivait en France avant d'aller au Népal, et vous continuerez à l'assister pour ce deuxième procès, parce que ce deuxième procès, apparemment, vous n'étiez pas au courant.
Ça a été réglé en quelques heures.
Il avait huit avocats.
Les avocats se sont retirés parce qu'on ne voulait pas lui donner une copie en français de leur procédure. Le tribunal a commis un avocat népalais, et dans la journée, ils lui ont collé 20 ans.
D'accord. Donc c'est comme ça que écoutez, c'est bien d'avoir entendu tout à l'heure le témoignage de Dominique Ronello, et c'est bien de vous entendre mettre les points sur les i sur l'état de la justice.
Il paie aujourd'hui 25 ans.
Et vous lui avez parlé depuis qu'il a été recondamné. Alors.
Oui, bien sûr, mais il a toujours
le moral ou pas, alors ?
Il a toujours le moral. Oui. Bah, s'il n'avait pas le moral, il serait foutu. Donc il a toujours le moral. Il pense toujours qu'il va sortir un jour.
Je vous remercie beaucoup, en tout cas, Maître Isabelle Coutant-Père. Merci Jean-Charles Degnaud. On remercie également cet éditeur Dominique Renello, donc ce Français qui nous a raconté tout à l'heure dans quelles circonstances il avait rencontré Sobhraj en Thaïlande. L'émission est maintenant terminée. On va filer dans quelques secondes au Salon de l'Auto, car notre ami Flavie Flamand est au volant là-bas aujourd'hui.